Nous allons continuer notre étude du Likutei Moharan. Comme l'a si bien fait remarquer David, la semaine dernière j'étais très vite, pour une raison très simple, c'est que je pense que le passage dans lequel j'étais très vite était de toute manière très très ardu, et qu'il reprenait essentiellement tout ce qui avait été dit plus haut, mais simplement il introduisait des notions kabbalistiques et des notions de guématriote qui, à mon avis, n'étaient pas faites pour tout le monde, et donc j'ai été très vite. C'est tout. Maintenant, nous allons passer donc directement à la Torah Zayin, qui s'appelle Ve'eleha Mishpatim, et la seule difficulté qu'il y a par rapport à ce texte, c'est qu'il n'est pas présent sur l'écran. Mais ce n'est pas grave, étant donné que j'ai le livre en main, donc je vais pouvoir moi-même... Ah, voilà. David a fait Teshuva, et voilà. Là aussi, le texte est divisé en deux parties. Vous voyez, écrit Leshon Rabbeinu Zichrono Livracha, et puis après, vers la fin du texte, il y a une reprise du texte de manière très succincte, un peu comme la dernière fois, mais quand même moins ardue. Voilà. Et de quoi ça va parler? Ben, ça va parler de finalement le sujet central. Ça s'appelle les conseils que l'on reçoit du Rav. C'est-à-dire, c'est dans l'atmosphère chassidique dans laquelle agit Rabbi Nachman, prendre conseil du Rabbi, chez qui on va se rendre, est une chose, disons, très centrale. Pardon, très centrale. Mais en fait, il y a ici beaucoup de liens à ce qu'on appelle, par rapport à ce qu'on appelle la pureté individuelle, ou en hébreu kedushat abrit, ou si vous voulez la pureté au niveau sexuel. Et ce sont des sujets. Je parle, tout à l'heure, David a dit que c'était un problème d'en parler. Non, pas du tout. C'est pas du tout un problème, étant donné qu'aujourd'hui nous connaissons la psychanalyse, que nous connaissons la psychologie, que nous connaissons tout le discours public sur la sexualité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces sujets peuvent être abordés de manière plus détendue et plus saine. Alors, de quoi s'agit-il? Alors,
C'est quelle Torah avant?
Zayin. Torah Zayin, la septième. N'est-ce pas? Ve'eleha Mishpatim, Masher Tassim Difneem, c'est le nom de la Torah. Elle s'appelle Voici les lois que tu vas mettre devant eux. Alors, ce verset, parle des sujets traités au tribunal, et a priori, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais on va voir tout de suite la manière dont Rabbi Nachman va utiliser les termes de ce verset pour arriver à des conclusions très profondes au niveau de la psychologie individuelle. Amu Chachamenu Zichronam Livracha, nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, ont dit Ushvu Isha Leish, c'est là que l'on a mis en égalité la femme et l'homme. De quoi s'agit-il? Au sujet des lois pénales. Les lois pénales ne font pas de différence entre les hommes et les femmes. Si une femme a volé ou un homme a volé, c'est la même loi. Si une femme a été volée ou un homme a été volé, c'est toujours la même loi. C'est-à-dire, Ishva, Ishvu, Isha, Leish. L'homme et la femme sont mis sur un pied d'égalité dans tout ce qui est le droit pénal. Alors, a priori, tout ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais on va voir par la suite que quand il parle ici de l'homme et de la femme, c'est une métaphore pour parler d'autre chose. Ve'ita ba mechilta, il est dit également dans la mechilta. La mechilta, c'est le midrash des Tanaïm sur le livre de Shemot, sur le terme asher tassim lifneb, que tu mettras devant eux. Yachol yiyu atalmidim lomdim venam evinim. Peut-être que les élèves sont faits pour étudier et ne pas comprendre. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il est dit, Asher Tassim Lifnehem, que tu dois déposer devant eux, Orham Lifnehem Keshulchan Aruch. Tu dois présenter devant eux ces lois comme une table dressée. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom du livre Shulchan Aruch, c'est-à-dire une table dans laquelle tout est en place. C'est-à-dire que c'est le devoir du pédagogue d'enseigner de telle manière qu'il soit sûr que les élèves ont compris. Bon, une fois tout cela dit, ce petit texte que nous venons de voir ne sera repris qu'à la fin. D'accord? Donc maintenant, pour l'instant, vous pouvez oublier ce texte. Et maintenant, nous allons passer à l'essentiel. Da, sache. qui karagalut et noela bishul chesron emuna, que l'essentiel de l'exil n'a pour source que le manque de foi. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, tavoi, reviens, tashuri merosh amana, regarde depuis le haut du mont Amana. Amana, c'est une montagne qui s'appelle Amana, mais ça veut dire également Emuna. Alors ça veut dire quoi? Que l'exil vient à cause d'un manque de Emuna. Alors, ça peut être mal compris, ça peut être compris, disons, dans le cadre de la pensée chrétienne, comme quoi le fait de ne pas avoir la foi intérieure, c'est ça qui entraîne la perdition. C'est très loin de la pensée juive, c'est pour ça qu'il faut rectifier. La galoute vient justement du fait qu'il n'y a pas assez de foi dans la providence historique. C'est-à-dire, la Guémara dit dans le traité de Sota, à la fin du traité de Sota, que à la fin de l'histoire, lors du retour d'Israël sur sa terre, il y aura des tzadikim qui n'auront pas la foi. Ça veut dire quoi? Que les tzadikim n'ont pas la foi. Les tzadikim, a priori, semblent avoir la foi. Alors, il y a une interprétation très belle de Manitou. Il disait, oui, ils ont la foi. Ils ont la foi dans le Shulchan Aruch, mais ils n'ont pas la foi dans... Ils n'ont pas la foi en Akadosh Baruch Hu, comme quoi Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige l'histoire. Cela veut dire donc qu'ils reconnaissent la validité du Shulchan Aruch comme étant une loi qui s'impose, mais ils ne reconnaissent pas Dieu dans l'histoire. Je me rappelle très bien, un jour j'étais chez le Rav Tzvi Yehuda Kook, et là-bas est arrivé un rabbin d'Amérique qui a posé la question suivante au Rav Tzvi Yehuda Kook, qui lui a dit « Certains disent que la Géoula ne peut pas venir par l'intermédiaire des Chilonis. » Et la réponse du Rav Tzvi Yehuda a été Kushiot al ribono shel olam. Ils ont des objections à faire au Créateur du monde. C'est-à-dire, si le bon Dieu a décidé que la Géoula se ferait par un mouvement sioniste laïque, eh bien, c'est son affaire, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas à nous de décider comment est-ce que l'histoire va s'organiser. Eh bien, c'est ça le manque de Emouna qui entraîne la galoute. Ikar galoute, l'essentiel de l'exil, vient de l'absence de Emouna, Kemoshekatou, ainsi qu'il est dit, Tavouim, Tashuri, Mirosh Amana, vient et regarde depuis la tête de Amana, depuis le sommet de Amana. Et d'ailleurs, il y a ici un texte qui n'est pas ramené par Rabbi Nachman, mais c'est auquel il fait allusion. Enagaluyot mitkansim et la bisruta Emouna. Les exils ne reviennent que par le mérite de la Emouna. Maintenant, comment est-ce que s'exprime la Emouna? Ve'emouna obechina tefila. Avoir la foi, c'est une manière de prier. Kemo shekatou, ainsi qu'il est dit, Vayehi yada ve'emouna, ainsi qu'il est dit, ses mains furent de la foi, ve'tirgumo, et la traduction en araméen, brisan bitzlo, étendu en prière. C'est-à-dire, à propos de Moshe, quand il monte sur la colline lors de la guerre contre Amalek, et qu'il lève les mains au ciel, alors la Torah nous dit, Vayi Yadav, Emouna, ses mains ont servi de foi. Ça veut dire que ses mains ont servi de foi, les mains de Moshe étaient étendues en prière. Ce qui veut donc dire que le mot Emouna et le mot prière, en fait, sont similaires. Veze Bechinat Nissim Lema Alamenateva. Et c'est ça, ça s'est associé aux miracles qui sont au-dessus de la nature. Qui a tefila les mala miteva, parce que la prière est au-delà de la nature. Qui a teva mechayevken, parce que la nature oblige certaines choses, va tefila meshana ateva, alors que la prière change la nature. Vezed varnes, et c'est une forme de miracle. C'est-à-dire, prier, c'est demander un miracle, demander un changement dans l'ordre de la nature. Velazet sarichemuna. Et pour ça, il faut avoir de la émouna. Sheya amin, il faut croire. Sheyesh mechadesh, qu'il y a un créateur. Uviado lechadesh davar kirtsono, et donc il a le pouvoir de renouveler le monde selon sa volonté. Bon, et ici, beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je voudrais bien expliquer. Vous savez, il y a, on explique souvent que la prière est un remplacement des sacrifices. Mais c'est une mauvaise compréhension des textes qui disent cela. En effet, la prière existait même au temps où il y avait des sacrifices. Au temps du Tanakh, quand nos ancêtres faisaient des sacrifices, ils faisaient aussi des prières. En vérité, la prière et le sacrifice sont des contraires l'un de l'autre. Parce que le sacrifice, vous n'avez plus l'habitude d'en faire, ça fait déjà presque 2000 ans que nous ne faisons plus de sacrifice, mais le sacrifice a pour rôle de préserver l'ordre du monde, qu'il ne se détériore pas. Tandis que la prière vient changer l'ordre du monde. Donc, si je prends cette définition, ça veut dire que le sacrifice est quelque chose de conservateur, tandis que la prière est révolutionnaire. Et donc, alors comment est-ce que la prière peut remplacer les sacrifices? Tout simplement, depuis que les sacrifices ont été abolis, alors il y a eu des éléments de korban, des éléments de sacrifice qui ont été introduits dans la prière. Ce sont deux éléments essentiels. D'abord, le fait qu'il y a un texte fixe et qu'il y a des heures fixes pour la prière. C'est-à-dire, c'est une irruption du sacrifice dans la prière. Mais la prière en elle-même est de nature spontanée. Elle vient exiger une transformation du monde. Et ça, c'est, si vous voulez, donc la prière est une forme d'exigence du miracle. Donc, il y a un rapport entre la émouna, la prière et le miracle, d'accord ? Et la foi. La émouna, la prière et le miracle sont liés l'un à l'autre. Et là, il rajoute, Ve'ikar émouna bechina tefila bechina nissim. Et l'essentiel de la prière qui est, l'essentiel de la émouna qui est la prière, qui est les miracles, vous voyez qu'il a tout mis ensemble maintenant. Enoela Beret Israël, ce n'est que en Eret Israël que ça se produit. Kemo Shekatou, ainsi qu'il est dit, Shechon Eret Surah Emouna, ainsi qu'il dit dans Tehilim, réside sur la terre, il s'agit de la terre d'Israël, et conduis-toi avec Emouna. Vesham Ikar Aliot Atefilot. C'est là qu'est l'essentiel de l'ascension des prières, que Moshe Katouv vezé Shar Hashamayim. Ainsi qu'il est dit, et c'est là la porte du ciel. Ça a été dit d'un lieu en Eretz Israël. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite histoire à propos de Rabbi Nachman de Breslav, qui est racontée par son élève Rabbi Nathan dans un autre livre. Dans cet autre livre, Rabbi Nathan raconte qu'un jour, Rabbi Nachman donnait un cours sur Eretz Israël. Et il a parlé pendant très longtemps, et il a dit, aujourd'hui, il n'est plus si difficile qu'avant d'arriver en Eretz Israël. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bateaux, il y a des diligences, il y a des voies ouvertes, et donc nous pouvons tous arriver en Eretz Israël. Et il a parlé comme ça pendant une heure. À la fin de son discours, Rabbi Nathan va voir Rabbi Nachman et lui dit, Maître, quand vous avez dit Eretz Israël, ça voulait dire quoi? Il était persuadé que le mot Eretz Israël, c'était une métaphore. Et Rabbi Nachman a dit, non, je veux dire Kipshuto. Littéralement, je parle des maisons et des cours qu'il y a à Tibériade, à Tzfat, à Jérusalem et à Hebron. Et alors, Rabbi Nathan dit, c'est alors que j'ai compris dans l'allusion de ses paroles qu'il voulait que nous arrivions tous en Eretz Israël. C'est-à-dire, sans la question de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman aurait pu parler pendant des années d'Eretz Israël et personne n'aurait compris qu'il parlait d'Eretz Israël. D'accord ? C'est-à-dire, vous comprenez que c'est tellement incroyable la manière dont Eretz Israël était conçu au temps de la Galoute, on a du mal à imaginer. Il y a des élèves de Rabbi Nachman qui sont arrivés en Eretz Israël et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont envoyé une lettre à leur maître. Et ils lui ont dit, mais nous sommes arrivés en Eretz Israël et nous avons vu que c'est de la terre. Ils étaient extrêmement surpris. Et Rabbi Nachman leur a répondu, non, non, ne vous en faites pas. C'est vrai que ça a l'air d'être de la terre, mais en vérité, ça vient de très haut. Et même le ciel d'Eretz Israël n'est pas comme le ciel de Chutz La'aretz. Bon, alors je reviens ici à notre idée là, que la prière, les miracles, la foi, tout cela se produit en Eretz Israël. J'aimerais comprendre un peu pourquoi c'est comme ça. C'est que Eretz Israël, si vous voulez, c'est le seul lieu sur le globe terrestre qui est vivant. Il y a le reste du monde, depuis le déluge, est devenu tout simplement un territoire. C'est quoi un territoire? C'est un plateau. Il faut bien mettre les hommes quelque part. Alors, il faut les mettre sur une place. Alors, vous avez la terre, vous avez l'ensemble du globe terrestre qui sert de lieu pour mettre les hommes. Mais la terre elle-même n'est pas une personne. Il n'y a que en Eretz Israël que le lieu est resté une personnalité. À tel point même que la Torah dit, viendra un jour où la terre voudra à nouveau ses enfants. Donc, c'est ça dont il est question. Les Sham Ikar Aliyat Atfilot, c'est de là que vient l'essentiel de la montée des prières. Ainsi qu'il est dit, ça c'est le portail du ciel. Ubishulze, c'est pour cela, que chez Pagam Avraham Bema Eda, où c'est lorsqu'Avraham a fait un défaut en demandant comment saurais-je. Alors, ça fait allusion au texte dans la paracha de Lech Lecha, dans lequel Avraham reçoit la promesse de la terre, et Avraham lui dit à Dieu, mais comment saurais-je que ça va se réaliser? Donc, il a eu un doute. Vous vous rendez compte? Abraham, le maître de la Emouna, c'est lui qui a un doute à propos de la promesse de Dieu, ça ne tient pas la route. Alors, il faut comprendre ça selon le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague explique que chez Abraham, quand il dit « comment saurais-je que je le mériterai ?», c'est un acte d'humilité. En effet, Abraham a de la hanava. Il est humble. Il se dit « je ne mérite pas ». Mais cette humilité, quand elle est transmise à ses enfants, devient un manque de foi. Et c'est pour ça qu'ils sont partis en galoute. Uvaze pagam birushat haaretz. Et c'est comme ça qu'il a détérioré l'emprise sur la terre, shi brinat emuna brinat fila, qui est emuna et prière. C'est pour ça que aya galut mitzraim, qu'il y a eu l'exil en Égypte. C'est-à-dire, si on n'est pas adapté à la nature du lieu, on quitte le lieu. Or, si le lieu exige de la emuna, si on n'a pas la emuna, on quitte le lieu de la emuna. C'est par exemple, on se pose aujourd'hui par exemple des questions démographiques. Comment tenir le coup, d'une part en ayant l'emprise sur Eretz Israël, alors que nous avons également une rivalité avec une autre population? Et je me rappelle un texte d'Adé Rabbanim qui avait dit, je remercie Herzl de ne pas avoir posé de questions démographiques. Parce que s'il avait posé des questions démographiques, il n'aurait jamais entrepris le sionisme. D'une autre manière, c'est Ben Gurion, je crois, qui disait, celui en Eretz Israël qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. En effet, il y a toujours des moments où la situation semble perdue, et c'est là qu'il y a un retournement qui fait que tout change. Je me rappelle très bien qu'il y avait un moment où la démographie allait balancer du côté de la population arabe, et juste au moment où ça allait se passer, les portes de la Russie soviétique se sont ouvertes et sont arrivées près d'un million de olim russes. Et donc, on voit que Akadosh Baruch Hu sait organiser l'histoire. Il sait trancher, pour ceux qui ont la Emouna, en faveur de son projet. Maintenant, la question qui est posée ici par David, comment Yaakov manquait-il de Emouna? La question n'a pas de sens tant que nous n'avons pas lu le texte. Vedavka Yaakov Vana Yardou Mitzrayim. Et précisément, c'est Yaakov, ses enfants, qui sont descendus en Égypte, qui hem bichinat shnemasar musraot atfila, parce que ces 12 enfants correspondent aux 12 versions différentes de la prière. Ça vient du Hari. Le Hari a dit qu'il y a 12 manières de faire la tefila qui correspondent chacune à une des tribus d'Israël. Veoridotam bagalout, il les a fait descendre en galout, ou Mitzrayim ou Ipuchanissim, en Égypte qui est le contraire des miracles. Kemoshekatuv ou Mitzrayim Nassim Likrato, ainsi qu'il est dit, l'Égypte, les miracles, le mot Nassim ça veut dire s'enfuit, mais c'est un jeu de mots ici de Rabbi Nachman, l'Égypte, les miracles sont à sa rencontre. Chez Encham Mekom Anissim, parce que ce n'est pas le lieu des miracles. Vencham Mekom Atfila, ce n'est pas le lieu des prières. Que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Vaya Ketseti et Taïr et Force de Kapaï. Parce que Moshe, quand il voulait prier pour un miracle, sortait de la ville égyptienne. Vechol Agalouyot, Mechounim, Al-Beshem Mitzrayim, et tous les exils sont appelés Égypte. Al-Shem Shem Metzerim Israël, parce qu'ils sont, ils font des misères à Israël. Ou Sheikh Pogmim, Baimuna, Batfila, Beretz Israël, ou Yored Legalout. Et lorsque l'on détériore la Imuna et la prière en Eretz Israël, on descend en Égypte. On descend en exil. Alors maintenant, la question se pose, oui, mais est-ce que Yaakov n'avait pas la Imuna? Alors là, il y a aussi un autre élément. Rabbi Nachman ne le dit pas, mais c'est évident. Il y a un moment de l'histoire où il faut partir en exil. C'est le moment des descendants de Yaakov. C'est le moment où il faut justement amener la Emouna et la prière à l'Égypte. Il y a à ce propos un très beau midrash qui dit que quand Abraham a manqué de foi, Dieu lui a dit, tu dois choisir, est-ce que tes enfants iront en exil ou en enfer? Et alors, Abraham a choisi l'exil plutôt que l'enfer. Maintenant, quand nous savons ce qui s'est passé pendant tout le temps de l'exil, on se demande si l'enfer ne valait pas mieux la peine. Mais enfin, Abraham a accepté l'exil. Manitou expliquait que ça voulait dire, si tes enfants ne descendent pas en exil chez les nations, alors les nations descendront en enfer. Et alors il faudra que tes enfants descendent dans l'enfer pour faire sortir les nations de là-bas. Et donc Abraham a préféré que ça se passe dans l'histoire plutôt que dans le métaphysique. C'est-à-dire que, en fait, il y a soit quand on manque de Emouna, comme c'est attribué à Abraham, on part en exil, soit quand la Emouna manque chez les nations, alors il faut qu'Israël descende chez les nations pour leur amener la Emouna. C'est ce qu'on appelle la dispersion des étincelles et après la rédemption des étincelles. Et c'est ça que veulent dire nos sages quand ils ont dit En Mashiach ben David ba, le Messie, fils de David, ne viendra, et la Hachetichle Pruta Minakis, que lorsque sera épuisée la force des incroyants. Hachetichle Pruta Minakis, jusqu'à ce que les incroyants cessent. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas ça qu'il y a écrit. Il y a écrit Pruta Minakis, jusqu'à ce que les pièces de monnaie disparaissent des poches ou de la bourse. Alors, mais pour Rabbi Nachman, ça veut dire qu'il y a, c'est une métaphore à nouveau, c'est pas qu'il n'y aura plus d'argent. Aïnou Sheikhlou Apikorsim. Mais ça veut dire que cessent les incroyants, les hérétiques, Shen Laimemuna Benissim, qui n'ont pas la foi dans les miracles. Ou Mechassim Kolanissim Bederchateva, et qui recouvrent tous les miracles comme si c'était des choses naturelles. Donc le mot kiss, qui veut dire une bourse ou un porte-monnaie, c'est ce qui recouvre. Ça vient du mot lechassot, qui veut dire recouvrir. Et donc, les apikorsim, les épicuriens, les hérétiques, ne croient pas au miracle et ils enveloppent le miracle par la nature. Donc, quand ils cesseront leur discours, pruta veut dire discours, on va voir tout de suite pourquoi, quand le discours des hérétiques cessera, c'est alors que reviendra la Emouna et alors on pourra faire donc des miracles. qui a Icar Anissim Beret Israël, parce que l'essentiel des miracles est en Eret Israël. Et pourquoi c'est comme ça? Qui Eret Israël Shota Techila, parce que Eret Israël est abreuvé en premier. De quoi s'agit-il? De la, des pluies. Vous savez, nous prions pour qu'il y ait la pluie. Mais pour le Zohar et pour la Gemara, nous prions pour qu'il y ait la pluie sur Eret Israël, et cette pluie d'Eret Israël, finalement, se répand dans le monde entier. Alors, je ne sais pas si c'est vrai sur le plan purement météorologique, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Eret Israël est considéré comme le lieu à travers lequel il y a alimentation du monde entier. Ushtiata, Meateomot, et son alimentation, son arrosage, vient des abîmes. C'est quoi les abîmes? Les abîmes, ce sont les miracles. Pourquoi? Shem leshon va tehom kolayir. Parce que le mot tehomot, tehom, qui veut dire l'abîme, ça vient de, du terme va tehom kolayir, et toute la ville en a été étonnée. She al-davar nissit mehina olam. Parce que ce qui cause l'étonnement, ce sont les choses miraculeuses. Vezé. Et c'est pour ça qu'il est dit, Tehom el Tehom Koré, un abîme on appelle un autre. Pourquoi un abîme? On a, si le mot abîme, le Tehom, représente les miracles, ça veut dire qu'il y a deux sortes de miracles. Kiesh Nissim Illahin, il y a des miracles supérieurs. Shu Bechinat Tehom Illa, qui est l'abîme d'en haut. Viesh Nissim Tataïn, il y a les miracles d'en bas. Shem Bechinat Tehoma Tataa, qui sont l'abîme d'en bas. Alors, ça veut dire quoi qu'il y a des abîmes en haut et des abîmes en bas, qu'il y a des miracles en haut et des miracles en bas? Et ça veut dire, je pense que c'est ça qu'il veut dire, il y a des miracles qui dépassent la nature, il y a des miracles qui se font à travers la nature. Par exemple, les miracles que nous vivons aujourd'hui en Eretz Israël se font tous à travers la nature. Aucune loi physique n'a été changée lors de la fondation de l'État d'Israël. Pourtant, la fondation de l'État d'Israël est un miracle. Mais c'est un miracle qui se fait à travers la nature. Umalach shekalul mikol anisim est l'ange qui comprend tous les miracles, Mishne Ateomot, qui vient des, qui comprend en lui les deux formes d'abîme, c'est-à-dire les deux formes de miracles, Damia le Regla, ressemble à un veau. C'est tiré de la Gemara dans Ta'anit, que l'ange qui est préposé à la pluie ressemble à un veau. C'est quoi un veau? En hébreu, egel, en araméen, egla. Shubichinat igulim, parce que ça ressemble à un cercle. Egel, agol, un cercle. Bichinat emuna. Et le cercle, c'est ça la emuna. Kemo shekatur, ainsi qu'il est dit, ve emuna sivivotecha, parce que la emuna est autour de toi. C'est-à-dire, il y a la vérité est au centre, et la émouna est dans la circonférence. Ou frita, sifelvate, et ses lèvres, les lèvres du, de l'ange en question, sont, sont fendues. Shubichina tefila, parce que les lèvres fendues, ça veut dire la prière. Kemo shekatu, ainsi qu'il est dit, Adonai sefatai tiftar, Seigneur, ouvre mes lèvres. Veuk la lutanissim, et c'est ça l'ensemble des miracles. Veze perouche, achetichle putaminakis, c'est ça que ça veut dire lorsque cessera la pièce de monnaie du, de la bourse. Kiesh bene Adam, parce qu'il y a des hommes, amechassim klaliutanissim, qui cachent, qui enveloppent les, le, l'ensemble des miracles, aklulim bamalar de frita silvate, qui sont tous inclus dans l'ange dont les lèvres sont fendues, mechassim bederech hateva, et il recouvre tout cela comme si c'était le chemin de la nature. Urche tichle zot, lorsque ça cessera, c'est-à-dire que lorsque le discours hérétique cessera, vetitrabe ha emuna baolam, et que la emuna sera abondante dans le monde, az yavo mashiach, c'est alors que viendra le Messie. Qui est kara geoula taloui bezé, parce que l'essentiel de la geoula dépend de cela. Que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, tavoui tachouri merosh amana, tu viendras et tu regarderas du haut de Amana. Alors, il y a, ça me rappelle quand même un enseignement d'un maître d'Espagne qui vivait deux générations avant l'exil d'Espagne. Je parle ici de Rabbi Abraham Bibago. Vous n'avez peut-être pas entendu parler. Rabbi Avraham Bibago, qui était un élève du Ran, de Rabbeinu Nissim de Gérone, a écrit un livre qui s'appelle Derech Emouna. Dans ce livre Derech Emouna, c'est un livre très profond, il y a là-bas un texte dans lequel il se demande pourquoi est-ce que l'exil est si long. Et il répond que l'exil est long parce qu'il faut... Une petite seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est à cause des travaux. Bon, donc, je reprends ici. Rabbi Avraham Ibago. Rabbi Avraham Ibago explique pourquoi est-ce que l'exil est si long. Alors que l'exil d'Égypte n'a duré que 2 siècles, l'exil de Babylone a duré 70 ans, et celui de Édom, celui donc qui a été occasionné par la... Une seconde, on me casse les pieds à nouveau. Vous voyez, ce sont les clipotes qui nous empêchent d'étudier la Torah. Donc, je reviens à notre sujet. Ce que dit Rabbi Avraham Ibago, c'est que l'exil de Édom est très long. Bon, lui ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Ça a pris, maintenant aujourd'hui nous savons que l'exil de Édom a duré exactement 1880 ans. Depuis la destruction du temple en l'année 68 et la fondation de l'État d'Israël en 1948, il y a eu 1880 ans. Alors évidemment, Félicia nous demande, mais une grande partie de nos frères sont encore en galoute. C'est faux. La collectivité d'Israël a accédé à l'indépendance politique, et le fait de rester en galoute, il ne reste qu'un problème individuel. Ça ne concerne plus la nation en tant que collectivité. Ah, il y a ici des questions. Dans quelle situation sont-nous maintenant? Maintenant, nous sommes en Géoula. Pouvez-vous définir ce qu'est un miracle? Alors, un miracle, c'est ce qui dépasse la nature. Il y a deux manières de dépasser la nature, soit en brisant les forces de la nature, c'est-à-dire une pomme, au lieu de tomber du pommier, monte du pommier, ou bien il y a également des miracles qui sont des choses exceptionnelles qui se produisent à travers la nature. D'accord? Ça s'appelle des coïncidences incroyables, c'est aussi une forme de miracle. Maintenant, revenons donc à Rabbi Avraham Ibago, je vais essayer quand même de le dire. Rabbi Avraham Ibago dit que chaque exil vient vérifier, vient prouver la différence qui existe entre la prophétie et une donnée et un rival spirituel. Alors, au temps de l'Égypte, il a fallu 2 siècles pour faire la différence entre la puissance des prophètes, celle de Moshe, et celle des magiciens de l'Égypte. Ça a pris 2 siècles. Et puis, c'était plus facile lors de l'exil de Babylone. Il a fallu 70 ans pour faire la différence entre la prophétie et l'imagination, l'imaginaire des anges et des rêves de Babylonie. Mais l'exil des Dômes dure plus longtemps, dit Rabbi Avraham Ibago, parce qu'il faut faire la différence entre la prophétie et la philosophie. Or, tant que cette différence ne sera pas mise en évidence, nous ne pourrons pas sortir d'exil. Effectivement, il est intéressant de voir que lorsque le kantisme, la philosophie d'Emmanuel Kant, finalement est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait rien savoir par la philosophie, c'est alors qu'on a commencé à parler du retour en Eretz Israël. Peu après la mort de Kant, un général envoyé par la République du nom de Napoléon Bonaparte arrive en Eretz Israël et lance un appel aux Juifs à revenir sur leur terre. Et c'est un peu ce que dit ici Rabbi Nachman, qui vit à cette époque d'ailleurs, il vit au temps des guerres de Napoléon, et il dit la Géoula ne commencera que lorsque la Emouna reviendra. C'est-à-dire que lorsque cessera le discours qui remet en question, qui se sert des lois de la nature pour remettre en question la validité de la Emouna. Et bien donc, à partir de ce moment-là, à partir du 19e siècle, quelque chose a changé dans le monde spirituel, et c'est alors qu'on peut revenir en Eretz Israël. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que je n'ai pas la suite du texte. Si j'avais la suite du texte, je pourrais continuer. Voilà, très bien. Aval Iefchar, la vol et Emouna et la Aliede Emet. Là arrive ici un point très important. On ne peut accéder à la Emouna qu'à travers la vérité. C'est quoi la Emouna et la vérité? Alors, il y a ici une différence fondamentale entre la manière dont on est connu la Emouna, par exemple dans la tradition chrétienne, et la Emouna dans la tradition juive. Pour la tradition chrétienne, influencée par une sorte de paganisme et de mythologie, la vérité, la Emouna est le contraire de la connaissance de la vérité. La Emouna, la foi, concerne ce qui n'est pas vérifiable. Si je suis loué d'avoir beaucoup de foi, si ce en quoi je crois n'est pas vérifiable par des arguments. Or, ce que dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, c'est qu'on ne peut avoir de la Emouna que pour quelque chose qui est vérifiable. Alors, souvent dans le populaire, on dit oui, mais si c'est vérifiable, alors c'est plus de la Emouna. Eh bien non, ce n'est que si c'est vérifiable que la Emouna peut intervenir. Il faut d'abord savoir que la chose est vraie. Une fois que je sais qu'elle est vraie, alors je peux également en avoir la foi, c'est-à-dire avoir une vie existentielle qui va me relier à cette vérité. C'est pour ça que ici Rabbi Nachman dit très clairement, et c'est contraire à ce que l'on dit en son nom chez les Chassidim de Breslav, Avan Iefchar Lavo Leemouna et la Aliede Emet. On ne peut arriver à la Emouna qu'à travers la vérité. Qu'à me voir Bazoa, ainsi qu'il dit dans le Zohar, Vaya Tzedek Ezor Motnav, Veemouna Ezor Chalatzav. La justice sera sa ceinture et la Emouna sera ce qu'il va ceindre. Haïnu tzedek, haïnu emouna. C'est-à-dire ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est vrai, ça, c'est ça qui va amener la emouna. Vambrusha, mais on a dit là-bas, emouna itkariat. La emouna est appelée emouna, kadit haberba emet. Lorsque la vérité s'y relie. Donc, si nous sommes capables de savoir la vérité, c'est alors qu'on veut parler de emouna. Maintenant, intervient ici un élément chassidique absolu. Mais on ne peut arriver à la vérité qu'en se rapprochant des tzadikim. Là, c'est donc chassidique à bloc. Ve'yeler bederech atzatam, il devra suivre leurs conseils. Valiede shenit mekabel mem atzatam, et c'est lorsqu'il reçoit leurs conseils, nerkakbo emet, que la vérité s'inscrit en lui. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, en emet hafatzta, voici la vérité que tu désires, kesheata hafetz emet, lorsque tu recherches la vérité, batuchot uv satum chokhmat odiaeni, c'est dans ton intériorité, dans tes reins, et dans ce qui est caché, tu me fais connaître la sagesse. Alors, reprenons un peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, on ne peut arriver à la Emouna. Non, l'essentiel de la galoute vient du manque de Emouna. La Emouna, c'est assimilable à la prière, qui est assimilable au miracle, qui ne se produit qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que lorsqu'on n'a pas la Emouna, on quitte Eretz Israël. Ou bien, lorsqu'il n'y a pas de Emouna chez les nations, Yaakov et ses descendants, qui ressemblent à la prière, puisque ce sont les 12 tribus qui ressemblent aux 12 manières de faire la prière, vont chez les goyim pour recevoir pour enseigner la Emouna et enseigner les miracles. Et on ne peut arriver au miracle qu'en s'attachant, on ne peut arriver à la Emouna qu'en s'attachant à la vérité. Voilà, j'ai résumé très rapidement tout ce que nous avons lu jusqu'à présent. Maintenant, il y a ici quelque chose de très intéressant, c'est que le conseil que l'on reçoit d'un maître, c'est comme une forme de fécondation qui a été saute chez Mekabel Mehem, parce que les conseils que l'on reçoit, Ubrinat Nisu Invesivug, c'est comme un mariage et une copulation. Et lorsqu'on reçoit des conseils des méchants, c'est comme le mariage dans l'écorce. L'écorce, c'est-à-dire les forces de l'impureté. C'est-à-dire qu'en fait, de même qu'il y a fécondation entre deux corps, un homme et une femme, il y a également fécondation entre deux esprits, celui qui donne le conseil et celui qui le reçoit. C'est-à-dire, c'est un acte de fécondité. C'est-à-dire, on dit souvent, cette pensée m'a fait réfléchir. J'ai reçu un tel conseil, quelque chose s'est développé en moi. C'est comme une fécondation, c'est comme, à la limite, même une grossesse. Je suis enceinte d'une nouvelle idée. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait Socrate de ses élèves. Les élèves de Socrate étaient plein d'idées qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Et Socrate leur faisait accoucher leurs pensées. Alors de même, le tzaddik qui me donne un conseil, c'est une sorte de fécondation. Et quand le conseil vient de quelqu'un de méchant, c'est une fécondation dans le mal. Ainsi qu'il est dit, Anahash Ishi Ani, c'est que le serpent m'a tenté, et Ishi Ani, Leshon Nisuin, ressemble au mot mariage. Aetzot Anahash Shekibla Ubichinat Nisuin, c'est les conseils qu'elle a reçus du serpent, ça ressemble à un mariage. Valide Nisuin Itilba Zohama, et c'est ainsi qu'il lui a donné sa souillure. Uve Mahamad Arsinai, Paska Zohamatan. Or, lors du mont Sinaï, de la révélation du Sinaï, a cessé la souillure. C'est la Gemara qui le dit. Kisham Kiblu Tariag Aitin Dikdusha, parce que là-bas, on a reçu 613 conseils qui venaient de la sainteté. Vaita Laem Nisuin Bikdusha, et donc il y a eu comme un mariage dans la sainteté. C'est-à-dire, la révélation du Sinaï ressemble à un mariage. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lors de la Choupa, on dit des divrei Torah en souvenir de la Choupa du Mont Sinaï, où la Torah a été donnée. Maintenant, remarquez, intéressant, il ne dit pas ici Tariag Mitzvot. Il y a deux termes dans le Zohar pour parler des 613 commandements. Parfois, Tariag Pikudin, ce qui veut dire 613 commandements. Et parfois, il dit Tariag Aitin, 613 conseils. Tout dépend du niveau de l'être. Si on en est encore à l'obéissance, alors c'est Tariag Pikudin, 613 commandements. Mais si on est arrivé à un degré supérieur dans lequel on peut adhérer à la compréhension de la Torah, alors on a 613 conseils. C'est-à-dire, c'est comme si Akadosh Baruch Hu agissait à la manière d'un rabbi chassidique qui donne des conseils, mais alors que le rabbi donne un conseil ou deux, le bon Dieu, lui, il en donne 613. Velama, Nikra, Etsa, comme les patriarches, oui. Velama, Nikra, Etsa, Birvifrinat, Nisuin. Pourquoi est-ce que le conseil est appelé mariage? Kiaklayot, Yoratzot, parce que les reins donnent des conseils. Dans la physiologie de l'Antiquité, on disait que le conseil, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le subconscient, vient des reins. Or, ce sont les reins qui sont les organes de l'engendrement, kleazera, là où se forment les spermes. Nimtsa, keshe mekablim, etsa, ne adam. Donc, lorsque l'on reçoit un conseil d'un homme, keilu mekablim emenuzera, c'est comme si on recevait de lui des spermes. C'est-à-dire, c'est une fécondation spirituelle. Veakol lefi adam, et chacun selon ce en quoi il est homme. Im rachait im tzadik, s'il est méchant ou juste. Ou bishvil ze, a Torah matish koach, c'est pour ça qu'il est dit que la Torah affaiblit la force de l'homme, de même que la fécondation affaiblit. Venikret tushia, mais donne également, et appelé également la force. qui hem tariagitin, parce que ce sont 613 conseils que Moshe Katouf, ainsi qu'il est dit, li etza vetushia, je donne des conseils et la force. Ve etzot hem bimkom nisuin, et ce qu'on appelle les conseils, ça ressemble au mariage, bechinat zivu gamatish koar, parce que d'une part, le rapport conjugal affaibli va à tzadik, mais le conseil du tzadik, ou kulo zera emet, est entièrement une semence de vérité. Vezeu perouche, c'est pour ça qu'il est dit, Vanochin et Taratir Sorek, je t'ai planté à la manière d'un sycomore, Bechinat Ageoula, et ça ressemble à la Geoula, qui est Moshe Katou, Eshreka Lahem, Vakabetsem, le mot Sorek qui représente un arbre qu'on appelle le sycomore, eh bien, il veut dire également siffler, Eshreka. Et siffler, c'est quand on appelle quelqu'un, on le siffle. Ve'aliedema, aliedé kulozera emet, et ainsi que dit la fin du verset, parce que tu es entièrement semence de vérité. Aliedé atzat atzadikim tavola emet, c'est-à-dire que par le conseil des tzadikim, tu arrives à la vérité. Ve'aliedé zenikret emuna, et c'est comme ça que c'est appelé emuna. Kaditra barba emet, lorsque se lie à elle, s'ajoint à elle la vérité. Va les désets à voix à Géoula, c'est comme ça que vient la Géoula. Alors là, je voudrais quand même rappeler ici, il y a ici une allusion qu'il fait à un texte de la Guémara dans Houlin, il ne le cite pas, mais il est évident qu'il y fait allusion. Il y a un oiseau parmi les oiseaux impurs. Un des oiseaux s'appelle Raham. Raham a été rapproché du mot Rahamim, la miséricorde. Et la Guémara dit que le mot cet oiseau qu'on appelle Raham, c'est le même oiseau qu'on appelle Shrakrak. Shrakrak, ça veut dire celui qui siffle, Shorek. Donc, c'est un oiseau sifflant. Et la Guémara dit que quand il est sur une branche d'arbre, les 613 conseils font 10. Après 9 mois de grossesse, arrive l'enfant. Peut-on faire un lien avec, attendez, si j'arrive à voir jusqu'au bout la question, avec la naissance? Oui. Maintenant, je reviens donc à ce que je disais. La Guémara dit que le raham en question, c'est le chakra qui siffle. Mais il siffle quand il est sur les branches des arbres. Quand il se pose sur le sol, il ne siffle pas. Mais le jour où le raham descendra sur le sol et sifflera, alors le Mashiach viendra. Ainsi qu'il est dit, Eshreka lahem vakabetsem, je les sifflerai et les rassemblerai. Bon, alors c'est quoi cette histoire? Ça veut dire beaucoup de choses, mais une des choses que ça veut dire, c'est que le rassemblement des exilés, c'est ça le Mashiach, que ça se fait à la manière d'un sifflement, c'est-à-dire que ça commence par la lettre Shin et après Resh et Kouf, c'est-à-dire l'inverse de l'alphabet, parce que l'alphabet c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tandis que le Shrakrak, ça commence à partir du Shin, le Tav en est exclu, mais ça veut dire qu'il y a un retour à partir de ce qui est loin. Ce qui explique entre autres d'ailleurs pourquoi est-ce que finalement la Géoula se fait par des voies extrêmement éloignées. Ça se fait par des Réchaïm parfois, ça se fait par des nations qui ont des intérêts dans l'Empire ottoman et qui finalement amènent la Géoula. C'est le Eshreka Lahem. Et donc ça veut dire que le temps, c'est le temps où la miséricorde descend sur terre, c'est là qu'il y a un sifflement qui nous ramène à la Géoula. Et donc, je reprends ici maintenant le texte de Rabbi Nachman. Ça veut dire que lorsque l'on reçoit des conseils des tzadikim, alors on reçoit également la Emouna, et donc quelque chose en nous siffle et nous ramène non seulement à la Emouna, mais à la vérité qui est indispensable à la Emouna. L'homme juif a-t-il le droit de siffler? Ah, et j'entends siffler le train. D'accord? La question était absolument géniale. Cherki, c'est la voix de cet oiseau. Non, non, pas du tout. L'oiseau s'appelle Sherakrak. Cherki, c'est avec un yud. Ça n'a rien à voir. Et enfin, c'était intéressant de voir la sympathie que vous avez pour moi. Maintenant, continuons le texte. Veze hen emet tachafat sabatuchot. Et c'est de ça dont il est dit. Tu reçois la vérité, tu as désiré la vérité dans ton intériorité, tuchot, c'est le mot qui veut dire également les reins, baklayot, chokhma todieni, que tu me fais savoir la sagesse, shezkel et kabel tipe amoar. C'est comme ça que je reçois les gouttes qui viennent du cerveau. C'est-à-dire, dans la physiologie d'antan, on disait que la semence féconde a pour origine le cerveau de l'homme. Et là, il explique c'est quoi la semence en question, tipe haserel, les gouttes de l'intelligence. À l'idée, et ça, chez Akabel Mehem, grâce au conseil que je reçois d'eux, vaziskela emet, et c'est comme ça que je mériterai la vérité, qui a tipe haserel nika kulozera emet, parce que les gouttes qui viennent de l'intelligence sont appelées la semence de vérité. Donc, vous voyez qu'ici, ça ressemble beaucoup à la psychanalyse, en fait, ce qu'il y a là. C'est cette idée qu'il y aurait un rapport entre la conjugalité également la parole. La parole étant une forme d'acte de fécondité, alors qu'il y a également la fécondité au niveau corporel. Oui, David.
Rav, là, il parle. Voilà.
Quoi?
Il parle de celui qui donne. Mais
quoi?
Celui qui donne, le zera qui donne, le oui. Zera tzadik, le zera cha, mais il ne parle pas de celui qui reçoit.
Si, c'est lui justement qui devient enceinte. C'est-à-dire grâce au conseil que je reçois du tzadik, je suis gros d'une nouvelle connaissance, d'une sagesse que je n'avais pas auparavant. Et cette sagesse me donne la emouna, qui me donne la vérité et qui me ramène en Eretz Israël.
C'est-à-dire que la Etsa, elle est tov ou elle est ra, ça dépend pas du si le Keli est tov ou elle est ra. C'est-à-dire, c'est pas un ensemble. J'ai une reçue
de bon état d'un tzadik. C'est pour ça que je dois aller chez un tzadik et pas chez un racha.
Oui, maintenant je suis allé chez un tzadik, mais moi je suis pas le bon Keli. Donc ça change rien.
Alors, tu as tout à fait raison, c'est pour ça qu'il y a la suite. La suite, c'est comment organiser le Keli. Le bon Keli, c'est le tzitzit. Tiens donc, voyons. Veda, shalide mitzvah tzitzit, adam nitzol me'atzat anachash. C'est en accomplissant la mitzvah de tzitzit que l'on est sauvé du conseil du serpent. Minisuin shel racha, du mariage du méchant, mibrinat ni'uf, qui ressemble à la débauche. Ki tzitzit shmira la ni'uf, parce que c'est le tzitzit qui nous protège de la débauche. Kamuva batikunim, ainsi qu'il est dit dans les tikkuni Zohar. Vaïkar Shem va Yefet et Asimla va Yassimo al Shechem Shenehem. Lorsque Shem et Yefet ont pris la couverture et qu'ils l'ont mis sur leurs deux épaules, Zebechina Tzitzit, ça ressemble au Tzitzit. Vervat Aviem Loraou, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Ki Tzitzit Mechase Aleriam, parce que le Tzitzit recouvre la nudité. Aval Ham, par contre Ham, qui lui a regardé la nudité de son père. Dehu yetzerara. Ham, ça veut dire ce qui est chaud. C'est le yetzerara. Des mechamem gouffé des barnage ba'avera, qui réchauffe le corps de l'homme pour l'amener au péché. Ou arour, il est maudit. Kemo shekatuv arour kenan. Ainsi qu'il est dit, maudit soit kenan, le fils de Ham. Kemo shekatuv arour ata mikol abehema. Ainsi qu'il est dit, tu es maudit comme toutes les bêtes, c'est-à-dire c'est un acte animal. Basimla inu atzitzit, mais la couverture qui est le tzitzit, ushmira me'atzat anachash, mizohamat anachash, c'est ce qui nous protège du conseil du serpent, de la souillure du serpent. Veze bechinat ben porat ale'ain. C'est pour ça qu'il est dit, tu es un fils fécond au-dessus de l'œil. Bishvil, tzitzit, leshon metzitz minacharakim, parce que ça veut dire au-dessus de l'œil. L'œil, c'est le tzitzit, parce que tzitzit veut dire regarder, contempler. Matzitz minacharakim, on dit qu'il contemple dans les incertices. Allié des zachal et ben porat, c'est comme ça qu'il a mérité d'avoir un fils de fécondité. Chez Nishmar minisuin, chez Nachash, il est protégé du mariage du serpent, misivu chez la citra achara, qui est la copulation du yetzerara. Attendez une seconde, je regarde où est-ce qu'on en est là, dans mon édition. Euh, D'accord. Mizum chez le Yetzerara. Vizacha. Chez Mizum chez le Sitra Achara. Du l'association avec le mauvais côté. Vizacha les Zivugam Gusha. Et c'est comme ça qu'il mérite la conjugalité avec la sainteté. Vizé Porat les Shon Zivug. Encore le mot Porat signifie le Zivug, le Shon Peru ou vous, c'est-à-dire. Croissez et multipliez. Veikar ani uftalui ba'inaim. Or, l'essentiel de la débauche dépend des yeux. Kemoshe amiru Shimshon alachachaynav. Ainsi qu'il est dit de Shimshon, Samson, qui est allé après ses yeux. Moshe katur elotaturu achare levavchem vachare enchem. Et comme il est dit à propos du tzitzit, et vous ne serez pas attirés par votre cœur et vos yeux. Ushmirat tzitzit shubchinat enaim. Et la préservation du tzitzit qui correspond aux yeux, ou shmira me'atzat anachash, c'est se préserver du conseil du serpent, ve'achol ekabel ha'etzot mitzadik shukulo zarei emet, c'est comme ça qu'on peut recevoir des conseils du tzadik qui est semence de vérité.
Vous avez une question du rabbin Messan?
Oui, allez-y.
Monsieur Messan, votre micro est éteint.
Ouvrez votre micro.
Voilà,
ça y est. On vous entend.
Mais là, Kacha Kavodarab, vous parlez de la vérité dans le test qui est répété. Oui. Pouvez-vous définir dans ce test de la vérité?
Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ah, c'est très simple. La vérité, il faut se référer aux enseignements des philosophes. C'est la chose telle qu'elle est. C'est-à-dire pas ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est. C'est ça qu'on appelle la vérité. Maintenant, il y a des choses qu'on appelle également vérifiables. C'est-à-dire vous pouvez prouver qu'une chose est vraie par deux moyens. Soit par des arguments de logique, soit par soit par des faits indubitables. Si vous avez un fait, vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, quelqu'un... je pense avoir répondu. Quelqu'un pose ici la question, les femmes n'ont pas de mitzvah de tzitzit. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elles n'en ont pas besoin. Ce qui est un niveau supérieur. Et il y a, de manière générale, les mitzvot dont les femmes sont dispensées, cela veut dire que ce que les hommes ont besoin de faire pour accéder à un certain niveau, eh bien, les femmes n'ont pas besoin de cela. Zachary Larmi a ici une question, il ferait mieux d'ouvrir son micro. Voilà.
Merci, Rav. Par rapport à l'enseignement que vous avez dit sur Rabbi Abraham Ibago, de oui. La notion de Edom, faire la différence entre la philosophie et la prophétie, qu'on oui. a mis en lien avec ce que dit Rabbi Nachman ici, est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, du coup, la fin de cet exil, on a réussi à faire cette distinction et comme dit Rabbi Nachman, les autres des tirbe emuna baolam, il y a cette emuna qui a été.
Oui, d'une certaine manière, on peut dire que ce qui a remplacé la philosophie classique, c'est la philosophie existentielle ou existentialiste, qui ne cherche plus à définir par des catégories de pensée la vérité, mais qui permet justement de se rapprocher de la vie elle-même. Et donc, cette destruction des concepts philosophiques est susceptible d'amener les moyens du retour de la prophétie. Alors, nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous sommes dans l'expectative. Mais en tout cas, cet écran intellectuel qui nous empêchait de prophétiser est, d'une certaine manière, effacé. Alors, ça a des conséquences catastrophiques au niveau moral. Parce que l'on vit aujourd'hui une période dans laquelle l'idée même de dire des vérités, semble absurde. Mais, une fois qu'on aura passé ça, nous arriverons à une rencontre avec la source de la vie et donc le retour des prophètes.
C'est peut-être pas pour rien que du coup, juste après, on parle de vérité, justement, que le texte de Rabbi Nachman parle de la notion de vérité.
Exactement. D'ailleurs, Rabbi Nachman était tout à fait conscient des évolutions philosophiques de son époque. Et ici, une question. Alors, pourquoi dans les brachot à Shachar, on dit merci de ne pas m'avoir fait femme pour les hommes? Merci. Bon, alors ça, c'est un sujet très vaste. Je vais être très rapide parce qu'on est vers la fin du cours. pourquoi ne pas dire merci de m'avoir fait homme? Si déjà on est tellement content d'être homme, on devrait dire merci de m'avoir fait homme. Pourquoi dire de ne pas avoir fait femme? Tout simplement parce que être homme n'est pas grand. Parce que l'homme est un être qui doit accéder à la perfection. Il est en insuffisance et il doit arriver à sa perfection. Pour cela, il a besoin des mitzvot, entre autres. Tandis que la femme a une sorte de perfection naturelle dans son être. Et donc, il est plus grand d'être femme qu'être homme. Seulement, le monde dans lequel nous vivons est un monde de perfectionnement et non pas un mode de perfection. Ça explique pourquoi est-ce que les hommes souffrent moins de ce monde que les femmes. Parce que les hommes sont en accord avec le décor. Le monde est un monde de perfectionnement et les hommes aussi sont en perfectionnement permanent. Par contre, dans le Olam Haba, c'est le contraire. Un monde de perfection est fait plus pour les femmes que pour les hommes, dans lequel c'est un monde dans lequel la perfection est inhérente à l'être. Il y a ici la dernière question, celle de Yocheved Miku. Allez-y.
Oui, Rav, est-ce que ce n'est pas justement dans la confrontation avec la réalité, la matérialité de la réalité, la matérialité de ce monde, que se forge le retour à la prophétie? Et je rattache ma question.
Vous voulez dire par là que c'est la rencontre avec le monde matériel?
La confrontation avec la...
Alors, est-ce que c'est une confrontation?
L'imperméabilité, oui.
Est-ce que c'est une confrontation ou une rencontre? Parce qu'en Eretz Israël, vous avez également la sainteté de la nature. La capacité, justement, de voir la sainteté dans le matériel. Et c'est ça que nous vivons.
Je pense à la rencontre de Yaakov Avinu avec l'ange, le combat avec l'ange. Oui, au travers de cette confrontation, c'est aussi une question que je pose. Est-ce que ce n'est pas au travers de cette confrontation qu'il prend conscience de sa force, de sa dimension Israël?
Absolument, absolument. D'ailleurs, vous avez finalement repris le texte de la Torah. Voilà, bon, eh bien, chers tous, je vais vous quitter, mais nous nous retrouvons l'année prochaine.